wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Spectacle vivant. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Camille André, prise de son assurée ce soir par Élise Le, réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir pour une spéciale Montpellier avec le printemps des comédiens Montpellier Danse. Je suis donc parti en week-end avec Lucille Como, Marie-Josée Sirage et Jean-Christophe Brianchon pour que nous puissions parler ensemble de Italienne, scène et orchestre, écrit mise en scène par Jean-François Sivadier, la conférence des oiseaux de Jean-Claude Carrière d'après Farid Oudinatar, mise en scène Guy-Pierre Coulot, Eight, nouvelle création de Laetitia Doche, et puis Trisha Brown, une américaine à Paris, une installation à découvrir au festival Montpellier Danse. Il y aura bien sûr en fin d'émission des cadeaux à gagner ce soir, des invitations pour le Festival international du film de La Rochelle qui se déroule du 29 juin au 8 juillet. Nous ouvrons cette émission avec la reprise d'un spectacle Italienne scène et orchestre qui avait été créé en 1996. En revenant sur ce spectacle qu'il installa parmi les grands créateurs de formes de sa génération, Jean-François Sivadier, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, offre un bain de jouvence à celles et ceux qu'il avait vus au fil des années, et puis remet en jeu maintenant cette proposition participative, on verra comment, alors même que des propositions de cette nature ou approchant ont été nombreuses depuis au fil des années. On va s'expliquer un tout petit peu, le public va non seulement suivre les répétitions de Traviata, l'opéra de Verdi, mais aussi être sollicité ou en tout cas placé tel que pourraient l'être les choristes sur la scène, puis les musiciens dans la fosse d'orchestre. Plongé au cœur d'un processus créatif qui offre évidemment des points de vue assez imprenables sur les éternelles querelles entre le plateau et la fosse, entre le jeu et le chant, entre le metteur en scène et le chef d'orchestre, mais permet aussi d'entrer dans les coulisses d'un spectacle en train de se faire, un spectacle à vivre donc en immersion.
Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, vous. Hein ? Non, mais vous imaginez, il n'y a rien. Tout d'un coup, vous êtes là. C'est énorme. Non, ça change tout, là. Non, hein ? Là, je crois qu'on tient quelque chose. Ce qu'il faut simplement trouver, si jamais vous devez rester ici tout le temps, qu'est-ce qui se passe intimement pour chacun d'entre vous au moment de votre apparition ? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas les mêmes quand vous êtes caché et quand vous êtes à vue ? Acte 3. La chambre de Violetta. Le plateau du théâtre. Rien. Des gens. Qui sont-ils ? On ne sait pas. Disons, la foule des rivales de Violetta, la foule de ses amants.
Est-ce qu'on les voit ou est-ce qu'on ne les voit pas ?
Très bonne question, Teresa. On les voit comme on voit une hallucination. C'est-à-dire avec une espèce de regard en dedans de vous-même.
Mais alors, si pour nous, ils sont une hallucination, est-ce que pour eux, nous sommes la réalité ?
Très bonne question, Teresa.
Merci. Les femmes à jardin, les hommes à cour.
Ça timide ! Timide, 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 je suis pas là, mais sans lâcher la morsure, mais timide, ouais, presque c'est mieux qu'hier, hein, Pierre Marcato. Voilà, ça, c'est le pouls de l'œuvre, il polso, c'est agréable, hein. Parce que là, j'entends déjà, mi, ré, dièse, do, dièse, si, la, fa, dièse. Oui, ça, c'est facile, connu le tube, on y va avec les gros sabots. Non, non, suite, dieci, tendis, attention, il va y avoir un petit piège. Du marcato, prego. Voilà, ça, c'est ce qui rend Verdi unique. Allez, ensemble. Ouais, ça, c'est un. Ouais, ouais, ça, c'est pas mal. Et attention à deux. Voilà, comme si tu ouvres la porte et on t'a derrière. Attention, il va y avoir un petit piège. Ah bah alors pourquoi vous arrêtez ? C'était ça le piège.
Petit tuyau, quand vous allez chanter là, même quand vous aurez vos perruques, ne pensez pas que vous êtes des personnages de fiction, hein, mais des gens qui parlent à d'autres gens. Que chacun en face se sente regardé par le spectacle qu'il est venu voir. Voilà, ça j'aimerais bien qu'on y arrive.
Voilà pour ce petit montage, hein, on aura compris qu'il s'agit évidemment pas d'un extrait dans sa continuité, mais de plusieurs moments de ce spectacle. Je suis obligé de demander à Lucille Como de commencer, puisque Lucille Como, on va le dire, c'est un spectacle que vous avez vu quand vous étiez très très jeune.
En fait, j'étais pas si jeune que ça, mais j'étais jeune dans la mesure où j'avais quand même vu très peu de choses
très
au théâtre.
Choses.
Et je crois que j'étais quasiment pas allée à l'opéra dans ma vie.
Et on va donc, dire que ça vous avait fait forte impression,
oui,
et vous l'avez
revu
hier après-midi, voilà, à Montpellier. Alors,
C'est difficile de revoir des choses quand on a eu à ce point-là une très très grande émotion. Moi, je sortais à ce moment-là de grandes années d'apprentissage de la musique et que j'avais un peu laissé de côté. Et du coup, me retrouver dans une fosse d'orchestre, pour moi, c'était un privilège inouï. Moins déjà sur une scène de théâtre, bon, je vais y revenir, il y a vraiment à mon avis une partie qui a beaucoup plus vieilli que l'autre dans le spectacle, mais en tout cas, ne serait-ce que de se retrouver dans une fosse d'orchestre, et là hier on était donc dans l'Opéra Comédie de Montpellier, qui est quand même une salle faite par Garnier, qui a une ampleur d'opéra classique, c'est quand même extrêmement impressionnant. Donc voilà, pour dire un peu les conditions dans lesquelles j'ai revu ce spectacle, je trouve en effet que la première partie a beaucoup vieilli parce que vous
la
le disiez
partie,
à Arnaud.
C'est celle où on est choriste,
voilà,
assis sur des gradins, sur
exactement,
le plateau.
Exactement, et du coup, le personnage principal auquel on a affaire est le metteur en scène, et la réflexion qui se mène est une réflexion sur la mise en scène de la Traviata. Alors, ça a à la fois vieilli par sa forme, parce que l'espace de la scène a été évidemment énormément investi depuis, même depuis 10-15 ans. Enfin, je veux dire, il y a, voilà, ne serait-ce que tous les dispositifs bifrontaux qu'on voit aujourd'hui, la manière d'inclure le public dans la salle, ça, c'est vrai que du coup, ça perd beaucoup de son charme. Reste le fait que on est quand même face à la salle. Donc, en l'occurrence, là, à Montpellier, à une grande salle avec balcon, loge, velours rouge. Voilà. Bon, ça reste quand même assez impressionnant.
La salle est en vide, en l'occurrence, puisqu'on est en répétition.
Enfin, il y a deux, trois personnes, la régie, le metteur en scène qui circule. Mais oui, de fait, c'est vide et ça, c'est impressionnant. Après, le problème, c'est ce qui se dit. Et ce qui se dit n'a pas changé depuis, du coup, j'imagine, le milieu des années 90. Or, on fait du théâtre différemment, on en parle différemment, et aussi on fait de l'opéra différemment, et aussi on parle, je pense, de la mise en scène d'opéra différemment. Donc, toute la question de savoir si Violetta doit ou peut mourir sur un canapé. Il y a un côté un peu vieillot parce que évidemment aujourd'hui maintenant plus personne quasiment ne fait mourir Violetta sur un canapé, et même les abonnés, ces fameux ennemis jurés du metteur en scène, les abonnés du théâtre bourgeois s'offusquent assez moyennement de voir maintenant Violetta mourir sur autre chose qu'un canapé. Donc il y a quelque chose qui a vieilli dans le texte, et je pense aussi qui a vieilli dans la manière de jouer de Nicolas Bouchot, qui est un acteur que j'aimais aussi énormément au moment où j'ai vu ce spectacle et que j'ai revu après dans les autres spectacles de Jean-François Civadier. Et je trouve qu'il a perdu de son comique de la même manière que le texte. C'est un peu triste du coup de voir ça. En même temps, je reste quand même très attachée parce que je trouve que la deuxième partie est géniale.
Alors on reste sur la première partie,
elle a vraiment pas
la deuxième
bougé.
Partie, celle où on vit dans la fosse. Alors restons sur cette première partie pour l'instant avec Marie-Josée Sérache, la partie mise en scène. Nous sommes sur la scène et on a surtout affaire, c'est vrai, au metteur en scène Nicolas Bouchot. Son assistante aussi, qui évidemment fait la doublure de la chanteuse Néric, qui est la star et qui va arriver évidemment beaucoup trop tard. Enfin bon, donc voilà, il y a tout ce et un ténor qui en fait qui a deux idées à la minute.
Absolument.
Mais qui ferait mieux de garder pour lui.
Oui, demain avec des verres d'eau. Moi, j'étais totalement emballée, enthousiaste. Ça a été un bonheur du début à la fin, que ce soit la première partie avec le metteur en scène, la deuxième partie avec le chef d'orchestre. Je ne l'avais pas vu à sa création, c'est une recréation. Je n'ai pas le sentiment que le texte est vieilli. Ça me parle. Moi, c'est jubilatoire d'être dans la peau des choristes comme ça, de se retrouver. D'abord, le premier éblouissement, c'est la salle vide face à nous. Je trouve que on peut pas s'empêcher de pousser un petit haut d'admiration, parce que quand même, c'est vertigineux, on n'y est jamais, on est tout le temps de l'autre côté, quand on est spectateur. Et se retrouver là, et on sait pas très bien au départ ce qu'on fait, bon, est-ce qu'ils vont jouer devant nous? Puis, évidemment, on comprend qu'on fait partie du chœur, et que devant nous, le metteur en scène va donner ses consignes, courir après tout le monde. Et je trouve que les questions qu'il pose sur le travail du metteur en scène, de l'interprétation, de la variation des rôles, de comment on se défait ou on s'empare ou on pénètre un personnage, me semblent être toujours d'actualité. Je ne pense pas qu'on les ait encore résolues et que j'ai plutôt l'impression qu'elles restent éternelles. Ensuite, sur le côté mourir ou pas sur un canapé, je trouve qu'il s'en moque beaucoup et c'est assez drôle. Enfin, voilà, c'est des questions qui peuvent encore surgir de nos jours. Enfin, il me semble, je suis peut-être une néophyte en la matière, côté opéra, je n'en ai absolument pas vu autant que vous, loin de là. Mais tout le côté carton-pâte, toc, comment aussi l'opéra se pose aussi ces questions-là, comment remoderniser, redynamiser la mise en scène, et ça annonce tout le travail, toute cette rencontre, c'est-à-dire cette italienne avec le chef d'orchestre, c'est-à-dire le raccord, comment ça va se faire. On sent bien qu'il y a des incertitudes, que le metteur en scène ne maîtrise pas tout à fait l'art de l'opéra, mais en même temps il y croit, sa Traviata, il veut en faire quelque chose d'extrêmement moderne, contemporain, et pourtant, il y a le poids du passé qui est là, donc il se débat avec tous ces questionnements. Et comme on est quand même dans l'autodérision, et ça c'est extrêmement agréable, cette capacité-là de rire de soi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Au tout début, alors signaler quand même qu'il y a les feuilles de service que les gens ne lisent pas, qu'ils découvrent à l'entracte, c'est rigolo. Et elles sont, mais truculentes, enfin, ça dit tout ce qu'il raconte sur la pesanteur de la bureaucratie, avec tous ces plannings impossibles à faire pour concilier les violons, les cintriers, tout le monde, c'est impossible. Sur ces stars, enfin sur les divas qui ne sont jamais là, jamais aux répétitions, qui se débrouillent pour ne pas être là et être en vadrouille parce que elles vont un peu cachetonner entre guillemets ailleurs. Enfin, tout ça est dit, mais avec beaucoup de joie.
Y compris sur les délégués. Les syndicaux, vous pouvez le dire,
par les choses de Serracha. Oui, absolument, la délégué syndicale qui est toujours de mauvaise humeur.
Qui, dans les maisons d'opéra, c'est sûr que les questions syndicales ne sont pas les moindres, que ce soit les machinistes, techniciens, etc., etc. Jean-Christophe Brianchon, on reste encore sur le plateau un moment avec vous.
Ouais, on y reste, mais pas avec tout à fait le même avis, parce que je ne partage pas du tout l'enthousiasme de mes collègues, si ce n'est que j'admets quand même que c'est un spectacle qui est capable du meilleur comme du pire, et du meilleur à certains instants, entre autres, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Lucille non plus, dans la direction d'acteur, que je trouve à certains instants, et même dans la globalité du spectacle, assez remarquable. Je trouve qu'il y a un rythme, il y a un humour, il y a toute une gestion du positionnement, de la gestion de l'espace, malgré le fait qu'il ne soit pas tant occupé que ça, qui est assez remarquable. Il y a aussi quelque chose de très brillant à certains instants dans l'écriture, dans le rythme de l'écriture, qui peut s'avérer grisante et terriblement drôle, comme on l'a déjà dit, mais aussi et surtout capable du pire, exactement dans les mêmes domaines que là où il est capable du meilleur. Je trouve que surtout en termes d'écriture, certains instants qui sont au départ assez drôle quand le texte vise à nous expliquer un petit peu de manière ironique les tenants et les aboutissants de l'opéra, finalement à force d'être tiré et tiré jusqu'à plus soif, certaines tirades en deviennent absolument indigeste et ça pose un réel problème, y compris je pensais que la deuxième partie de la pièce allait combattre ce problème et allait le résoudre, mais en fait finalement non, parce que la deuxième partie est quand même aussi plus enlevée et nous donne une place qui nous permet peut-être de trouver un rythme différent, mais finalement ces tirades sont toujours là et le problème n'est absolument pas résolu. Donc là, à ces instants-là, il est capable du pire aux mêmes endroits que là où il est capable du meilleur. Et même, je dirais que là où il est aussi capable du pire, c'est finalement dans la façon dont il finit par d'une certaine manière, se prendre les pieds dans les critiques qu'il fait lui-même à l'opéra. Je dis « il », c'est ce texte, hein. Parce que je suis personne en particulier, mais je trouve que ce texte qui, à certains instants, nous parle de l'impossibilité, ou en tout cas de la nécessité de jouer Verdi avec chaleur, et qui nous parle d'une certaine manière l'idiotie de la bourgeoisie qui va à l'opéra pour se faire convaincre, comme il le dit, se faire convaincre de sa place dans la société. Finalement, dans ce texte-là, dans cette pièce, la chaleur, je la trouve pas, je la trouve assez peu, et ça me manque quand même beaucoup, parce que je vais surtout au théâtre pour trouver ça, pour trouver de la sentimentalité et de la chaleur. Et je trouve aussi que ça nous met dans une position qui est d'une certaine manière la même que celle de la bourgeoisie dont il parle, puisque en se faisant expliquer l'opéra de cette manière-là, finalement la bourgeoisie qui vient au théâtre ne vient que pour se faire expliquer l'opéra, pour en sortir en étant certain, d'une certaine manière, qu'elle est la seule à le comprendre. Et je trouve ça assez dérangeant.
Bon, alors je partage pas non plus tout ce que vous venez de dire, Jean-Christophe Brianchon. Alors, histoire personnelle pour histoire personnelle, moi, c'est vrai que j'étais heureux de retourner à l'Opéra Comédie, mais un peu déçu d'être sur le plateau, parce que c'est quand même là que j'ai passé le plus de temps, comme figurant à l'Opéra de Montpellier. Mais ça, c'était quand j'étais étudiant, donc j'ai tellement passé d'heures sur ce plateau que j'aurais bien aimé être dans la salle. Blague à part, enfin, c'est tout à fait vrai. Je trouvais assez intéressant que Jean-François Sivadier remette cette pièce en jeu, parce que, alors, sauf erreur, mais peut-être qu'il y a eu d'autres choses avant, il me semble que c'est sa première pièce écrite et mise en scène par lui. Peut-être qu'il y en a-t-il une avant, et il nous corrigera, ou il me corrigera. Mais depuis, quand même, Jean-François Sivadier a monté Traviata au Festival d'Aix-en-Provence. J'ai eu la chance d'assister à l'une des représentations. Il y a eu un film de Philippe Béziat qui s'appelle Traviata et nous, un film documentaire justement sur le travail de Sivadier pendant cette création de Traviata, et c'est un très beau film dont on avait également parlé dans cette émission. Et donc de revenir en arrière comme ça, du jeune comédien, metteur en scène qu'il était, ayant évidemment le goût de l'opéra et l'envie d'en faire et de remettre ça, je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Alors en fait, je pense qu'il ne se passe pas grand-chose au bout du compte, et c'est peut-être l'un des problèmes qu'on a. Moi, j'ai pris du plaisir à différents moments, davantage effectivement dans la deuxième partie dans la fosse, parce que là, c'est pour le coup, je n'ai jamais été musicien dans aucun orchestre, donc c'est une place que je ne connaissais pas. Et je dois dire, j'étais aussi très heureux de retrouver Jean-François Sivadier, comédien, avec un rôle de cette importance, puisque c'est lui-même qui joue le chef d'orchestre, et que vraiment, je trouve que c'est un bel acteur, enfin qui a une... moi, là, il y a de la chaleur, là, il y a de l'émotion, là, il y a de la sensualité, là, il y a que vous n'avez pas trouvé, Jean-Christophe Briançon, même dans le jeu et dans le personnage de Sivadier.
Si, mais je remets absolument pas en cause les comédiens que je trouve honnêtement tous formidables, y compris Nicolas Bouchaud, dont je suis de toute façon un grand admirateur. Mmh. Donc, une fois de plus, il m'a conquis. Et Jean-François Sivadier, effectivement, est très impressionnant aussi. Mais par chaleur, moi, j'entends... l'envie d'être, je parle de l'envie d'être ému. Là, là, j'ai de la chaleur dans le sens où j'ai face à moi un très bon et un très grand batteleur, comme quelqu'un qui animerait très bien des déjeuners de famille. Mais oh, finalement, à la fin d'un déjeuner de famille, j'ai pas la larme à l'œil. J'aimerais bien la voir au théâtre.
Non, mais ça va. Alors, c'est peut-être pas cette larme à l'œil-là qu'on a, mais c'est vrai qu'il occupe une place particulière, Sivadier. Tout au long de ses spectacles, je me suis rendu compte que je les avais tous, sauf un Beaumarchais, tous vus. C'est les spectacles qu'il a mis en scène et parfois écrits. Il a une place particulière parce qu'il est quand même absolument, on va dire, un metteur en scène auteur, enfin au sens du théâtre public, mais c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur l'humour. C'est quand même pas la caractéristique principale de nos metteurs en scène, en tout cas en France, et que c'est une... je trouve que c'est une belle arme, en tout cas, qu'il a. Je voulais citer aussi Charlotte Clamins, qui joue la diva, et que c'est une comédienne qu'on voit trop peu, à mon sens, et qui est absolument passionnante à regarder jouer. Et du coup, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Donc, je vais repasser la parole à Lucille Gomeau, qui a pris plein de notes pendant que nous parlions les uns et les autres.
Moi, ce que j'aime pas trop dans ce texte, et je vois vraiment beaucoup aussi de faiblesse dedans, hein. C'est au contraire ce qui va vers une forme de sentimentalisme sur la chose, l'essence du théâtre, ce que c'est que la mise en scène, tous les grands mots qui sont du coup pris en charge par Nicolas Bouchaud, par son personnage de metteur en scène, sur la grande mise en scène et ce que ça doit faire. Vraiment, moi, j'ai énormément de toute façon de mal à supporter ce discours-là, très empreint d'une forme de religiosité toujours autour de la chose théâtrale, comme
s'il y avait un mystère. De la jeune chanteuse,
voilà,
qui est le moment
fait,
effectivement trop long,
mais
mon sens aussi.
Mais justement, je trouve que dans la fosse, et j'en viens du coup à cette deuxième partie, parce que c'est le lieu de la musique et parce que la musique, c'est quelque chose de profondément étranger, je pense, pour beaucoup de gens, beaucoup plus que le théâtre, et probablement pour Sivadier et pour le public, et parce que c'est aussi quelque chose de très technique, et ben du coup, il y a tout un discours qui repose sur le socle théorique, entre guillemets, de ce qui se dit, est un socle technique. Et on lâche un peu les grandes anecdotes sur ce que c'est que le jeu, le grand jeu, jouer, être dans son corps, ne pas être dans son corps. Et on a, par exemple, une anecdote sur... donc le chef d'orchestre raconte que avec un orchestre, quand il était jeune... En répétition générale, le chef décide d'un seul coup de pas du tout leur faire jouer, je crois que c'est le Sacre du Printemps, un truc hyper dur, mais le Donjon de Strauss, qui est le pire truc à jouer en orchestre, surtout pour des violonistes, et que du coup, évidemment, ils ont hyper bien joué au concert parce qu'ils n'avaient pas répété le truc. Et tout ça, toutes ces anecdotes-là, elles pour moi, elles créent beaucoup plus d'émotions et elles disent beaucoup plus de ce que c'est que la création d'un spectacle que tout ce qui se passe par ailleurs. Donc, à mon avis, il y a une très très grande différence entre tout ce qu'on peut se faire comme réflexion sur la mise en scène et tout ce qu'on peut se faire de réflexion sur la musique. Et juste pour finir, sur la chaleur, moi, je n'éprouve pas plus le collectif au sens... à tous les sens esthétiques, politiques, que dans un orchestre. Et là, ce que je trouve incroyable, alors peut-être que c'est moi qui projette parce que j'en ai beaucoup fait, mais j'ai pas ma flûte dans les mains, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir cet effet-là, d'être dans un collectif. Parce que du coup, il faut aussi expliquer qu'on a la musique dans les oreilles, puisqu'on entend des bruits de répétition et qu'on a les partitions devant, enfin des fausses partitions devant, sur les pupitres allumées. Moi, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien et j'ai retrouvé cette émotion première du collectif. Alors peut-être que en fait, je suis pas faite pour aller au théâtre, il faudrait juste que j'aille voir des concerts. Mais pour le coup, je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien.
Dernier mot, Marie-Josée Serrache.
Moi, je continue de penser que c'est quand même un très beau spectacle et... Enfin, toute cette réflexion vise à désacraliser tout le rituel de pensée et de réflexion autour de la création. Donc,
Vous êtes sûr ?
Bah oui, parce qu'il s'en moque un peu. Et c'est ça la capacité de Sibadier, c'est d'être dans l'autodérision. À un moment donné, quand on entend le metteur en scène dire « il faut sauver cette Traviata en dépit de Verdi », voilà, c'est d'une arrogance folle et en même temps c'est très drôle. Et,
c'est premier degré aussi.
Je pense que parfois ça l'est justement. Il y a un peu une alternance de moments un peu sketch. Semble, hein. En effet, il y a de l'autodérision et des moments, moi, à mon avis,
où il dit des choses sérieuses.
Alors, il y a des moments plus sérieux, mais je trouve qu'il parvient à désacraliser dans le sens où tous les gens qui sont là, qui n'aient jamais mis les pieds au théâtre ou à l'opéra, ne peuvent que marcher dans ce spectacle-là, parce qu'il est très populaire, il rassure tout le monde dans le sens, il nous prend par la main et il nous emmène dans cette aventure-là, qui est complètement, voilà, il y a du bazar, c'est formidable, on est complètement au cœur des hésitations. Je sens que personne n'est d'accord, mais tant pis.
Non, regarde si on a le temps de parler encore après vous, on a envie.
Parce que ça fait réagir.
Ça fait réagir, au contraire.
Non, mais je me tais.
Non, mais il y a le côté.
Et puis le rire, c'est aussi une émotion.
Bravo Marie-Josée. Toc, comme vous l'avez mouché là, notre Jean-Christophe Brianchon. Non mais c'est vrai que le côté coulisses, je pense que ça ne peut que marcher, parce que c'est fait avec une forme de générosité réelle. Alors sur le double régime parfois du texte, ça, moi je pense que deux fois une heure et demie c'est trop long et que deux fois une heure eût été préférable. Jean-Christophe Brianchon.
Moi c'est juste pour ce qui est de la désacralisation, je suis pas absolument certain que ça nous mène à ça, et c'est d'ailleurs là aussi où d'une certaine manière j'ai été content malgré tout, parce que au début de la pièce une des premières phrases fait dire, je crois, à Nicolas Bouchot quand on n'a pas le, et puis il laisse trois petits points et il dit on n'a rien, et c'est exactement ça qu'on voit pendant trois heures. Finalement c'est des gens qui courent après le on ne sait quoi et qui finissent par éventuellement avoir quelque chose, peut-être rien en fonction de chacun, de la façon dont chacun l'envisage. Mais en tout cas, de toute façon, c'est passionnant de voir que fondamentalement, le théâtre, c'est ça, c'est de chercher cette chose qui peut-être nous amènera à autre chose.
J'ai envie de pleurer.
Bah ouais, vous voyez, c'est... Je peux pas.
Vous pouvez pas, Lucille. Hein. Non, Lucille, allez-y.
Ah non, moi, le grand mystère du théâtre, vraiment, c'est...
Mais c'est pas un mystère, c'est pas un mystère.
On fait un grand amour avec Jean-Christophe, parce que...
Voilà, vous changerez d'émission, hein, on vous retrouvera à 18h20. L'Italienne scène orchestre, écrit, mise en scène par Jean-François Sivadier jusqu'au 29 juin au Printemps des Comédiens à Montpellier. Puis ce spectacle sera donné à la MC 93 de Bobigny du 9 au 28 juillet dans le cadre du festival Paris L'été. À suivre dans la dispute, la conférence des oiseaux, Hate et Trisha Brown.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Nous poursuivons cette dispute consacrée pour trois quarts au Printemps des Comédiens à Montpellier. On n'a pas parlé de ce festival qui quand même monte en puissance depuis quelques années. On avait pu y voir pour la dispute Simon McBurney, beaucoup d'autres cette année, Christiane Loupa, Christophe Warlikowski. On va parler de Laetitia Deutsch dans un instant. Vous avez passé un tout petit peu plus de temps que nous, Marie-Louise Sirach. Vous étiez en décalé. On ne s'est pas vu, en fait, on va dire la vérité. On ne s'est pas vu. Enfin, moi, je ne vous ai pas vu à Montpellier. Mais le programme est quand même assez...
Il est dense, il est intense, il est assez... assez pertinent, et ce depuis plusieurs, un grand nombre d'années quand même. C'est vrai que le Printemps des Comédiens est un rendez-vous assez important juste avant Avignon.
Oui, qui s'installe de plus en plus quand même.
Qui prend de l'ampleur et qui a une programmation extrêmement pertinente.
Oui. Vous confirmez, Jean-Christophe Briançon?
Ah oui, je suis complètement d'accord.
Ouais,
ces deux, trois dernières années, moi, j'ai trouvé ça absolument, absolument remarquable. Et effectivement, je trouve que ça prend de l'ampleur. Peut-être que j'y faisais pas assez attention avant, mais en tout cas,
je pense que ça grandit. Ça fait un petit moment, mais là, ça se confirme. Et puis, il y a ce cadre du domaine d'eau où se déroule l'essentiel des spectacles, quand même pas l'endroit le plus désagréable de la Terre. Et on peut y voir, dans ce Printemps des Comédiens, dans ce domaine d'eau, et en extérieur, en l'occurrence, dans un espace qui a été conçu pour la Conférence des oiseaux de Jean-Claude Carrière, d'après le poème de Farid Oudin Attar, dans une mise en scène de Guy-Pierre Coulot. C'est un recueil de poèmes médiévaux en langue persane qui avait déjà été mis en scène en 1979 par Peter Brook, qui raconte l'histoire d'un groupe d'oiseaux pèlerins qui partent sous la conduite d'une huppe fasciée à la recherche de Simur, leur roi. Hein, il faut dire Simur, non ? Et on va voir comment ce voyage va se dérouler.
Un jour, tous les oiseaux du monde, ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus, se réunirent en une grande conférence. Chers oiseaux, je passe mes jours dans l'anxiété. Je ne vois parmi nous que querelles et batailles pour une parcelle de territoire, pour quelques grains de blé. Cet état de choses ne peut pas durer. Pendant des années, j'ai traversé le ciel et la terre. J'ai parcouru un espace immense et je sais beaucoup de secrets. Écoutez-moi, nous avons un roi. Il nous faut partir à sa recherche, sinon nous sommes perdus.
Moi qui suis le tireur le plus habile du royaume, c'est sa faute. Il faut qu'il ait bougé. Achevez-le ! Ha !
Alors ?
Je sens la peur.
Moi aussi. La peur a une odeur particulière pendant la nuit.
Deux hommes s'approchent le long du chemin.
L'odeur de peur s'approche aussi.
Une odeur très forte.
Je ne peux pas aller plus loin.
Pourquoi, oiseau double ?
Parce que je suis mon propre ennemi.
Tu ne le vois pas.
J'ai avec moi le voleur qui doit m'arrêter.
Je ne le connais pas, mais il est en moi. Je le sens. Si je m'aventure plus loin, il m'attaquera. Il me tuera.
La Conférence des oiseaux, en ce moment au Printemps des Comédiens. Puis ce spectacle sera plus tard, à l'automne et au début de l'année, à Colmar, puis au Hôtel des Quartiers d'Ivry. Marie-Josée Sirache, pour commencer.
Alors, vous le rappeliez, c'est au domaine d'eau et c'est sous les micocouliers que l'on peut assister à ce spectacle. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé un entretien de Peter Brook qui avait monté cette pièce en 79. Il n'existe aucune captation parce qu'il avait refusé que l'on filme son spectacle qui se jouait au Cloître des Carmes à ce moment-là. Donc j'étais un petit peu frustrée parce que j'aurais bien aimé, non pas pour comparer, mais pour avoir une idée de ce que lui en avait fait.
Moi, je me suis fait mon idée dans la tête pendant l'autre
soir.
Oui,
effectivement, le connaissant un peu.
Comment aurait fait Peter Brook?
Bon. Alors, c'est vrai que l'histoire, elle est, c'est une grande traversée d'une bande d'oiseaux.
Allégorie, quoi.
C'est une allégorie sur la quête profonde de l'homme, ou de Dieu, enfin, ou du roi, pour. Je crois qu'ils doivent traverser 7 vallées, dont les unes révèlent chaque fois un mystère. Alors, on y entend des piaillements qui peuvent évoquer les lâchetés des hommes, la couardise. Finalement, bon, tout le monde plus ou moins suit et part dans cette aventure. C'est Voilà, c'est un spectacle visuellement assez joli, puisqu'il y a de très beaux masques, ils portent des masques d'oiseaux, et ça, c'est un très beau travail, les masques, on les doit à Kuno Schlegelmich. La scénographie est assez jolie, je trouve. Les masques sont posés sur, au fond de scène, et avec un très joli travail autour des lumières. Bon, ensuite, je trouve que cette conférence des oiseaux manque un peu de souffle quand même. C'est un peu trop lent, un peu trop étiré, on a un petit peu compris. Alors, il y a des moments assez jolis, parfois un peu chorégraphiques, un peu dansés. Même si le premier soir, les pauvres, ils ont eu une grosse panne technique de lumière. Ça, c'est un petit peu... Bon, mais ils ont continué de danser courageusement.
C'était pas la Vallée des Ténèbres, non, c'était pas à ce moment-là.
Non, c'était avant. Juste avant. Voilà. Donc, c'est un spectacle sympathique, mais voilà, sans plus, voilà. Pour moi.
Sans plus. Jean-Christophe Briançon, même panne, même soir.
Ouais, même on l'a panne, eu sans panne, avec même panne, Combo, mais pas le même sentiment, ouais. Parce que j'ai trouvé ça très 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 lourd. Alors bon, faut pas que je sois trop violent, évidemment, mais bon, il y a un questionnement fondamental de ce texte qui est pas forcément inintéressant, sur la nécessité de suivre un roi, sur l'amour de ses propres ruines, sur la nécessité de la fuite, etc. Bon, pourquoi pas, à la rigueur. Bon, sauf que c'est posé de manière très naïve, ce qui empêche quand même, malgré tout, et c'est pour ça que je suis pas absolument certain que Peter Brook ait pu en faire quelque chose de formidable malgré le maître qu'il peut être, parce que ce texte est quand même fondamentalement problématique et d'une naïveté quand même crasse. Et là, en l'occurrence, à la naïveté de ce texte se rajoute le premier degré de la mise en scène et de la direction d'acteurs qui aussi intéressante puisse-t-elle être, parce que quand même le travail du corps de chacun des comédiens individuellement est intéressant, ils mènent quelque chose et ils vont jusqu'au bout du projet qui est le leur et ils mènent ce projet quand même voilà en fonction des codes qui sont les leurs de façon assez remarquable, mais malgré tout de manière quand même très naïve, et cette naïveté rajoutée à la naïveté du texte fait qu'on finit par être dans un espèce d'amas de surajout de naïveté à la naïveté sur un questionnement qui est évidemment important, un questionnement bon, bourré de symboles, mais pour autant qui peut être intéressant, mais qui finit par donner le sentiment un petit peu, vous savez, comme ces toiles de maître qu'on retrouve dans les brocantes cachées sous la peinture d'un peintre amateur, vous voyez, ça fait un peu bon, bah on a besoin de rayons, de laser ou d'un produit particulier pour effacer tout ça et retrouver la toile de maître. Là, c'est un petit peu le sentiment que ça m'a donné. À force d'amas et de surajout de premier degré, on finit par rechercher le maître et j'ai l'impression qu'il est un peu loin.
Lucille Comeau, sur cette conférence des oiseaux, mise en scène Guy-Pierre Coulot.
Oui, moi je me suis beaucoup beaucoup ennuyée, alors que c'est un spectacle qui est assez court, qui donc la trame vous l'avez racontée, mais qui finit par vraiment être une succession de scénettes toutes petites, puisque on est un peu sur un fonctionnement de type grand poème épique. Il y a des histoires dans l'histoire, et le problème c'est que chaque petite parabole qui nous est contée, donc par exemple une reine qui tombe amoureuse de son esclave, ont un fonctionnement, on imagine, politique propre dans un grand projet dont on ne saisit absolument plus les enjeux au bout de 10 minutes. Donc c'est difficile à regarder parce qu'on a l'impression d'assister à une série de petites pièces qui sont parfois à la limite un peu, moi j'ai trouvé, de la kermesse. Et aussi dans la manière dont c'est abordé par les comédiens qui, encore une fois, à mon avis, sont dirigés comme ça. Je pense qu'il y a vraiment un parti pris de naïveté chez le metteur en scène, sauf que je crois pas que ce texte-là, on puisse le monter comme ça aujourd'hui. Je pense que ça a eu en fait une efficace politique à un moment donné dans les années 70, parce que le seul fait de monter ce type de texte et donc de faire preuve de cet exotisme, de cette ouverture vers un autre texte, un autre type de langage, un autre type de sagesse, entre guillemets, était de toute façon, avait un sens en soi, et que du coup j'imagine que le texte de l'adaptation de Jean-Claude Carrière, elle s'inscrivait dans ce type de démarche-là. Je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus possible de monter un texte comme ça. Ce qui est terrible, c'est que ça va même contre le texte, vous le disiez Jean-Christophe, même politiquement contre le texte. On a vraiment, moi j'avais vraiment l'impression d'assister à une séance de micmac, de sagesse orientale mélangée avec du développement personnel. Il y a quelque chose de ça, parce qu'aujourd'hui, on nous a expliqué ce que c'était que la sagesse orientale. On est capable d'aller plus loin dans ce type de texte-là. Donc, à mon avis, c'est très problématique de le monter au premier degré. C'est non seulement assez ennuyeux, Mais à mon avis, ça se retourne aussi un peu contre le premier grand projet qui devait être pas inintéressant, je pense.
Alors, c'est vrai que quand j'ai imaginé le spectacle qu'avait dû faire Peter Brook, je me suis demandé s'il l'avait fait en une heure ou en six heures, parce qu'il y a aussi cette possibilité-là, parce que c'est un très long recueil de poèmes. Il y a beaucoup de chants. En fait, Peter Brook, il y a travaillé tout au long des années 70, avant cette version d'Avignon de 79. Mais parce que je pense qu'il n'avait pas encore trouvé son Mahabharata, qu'il a trouvé un peu après, mais que c'est effectivement, moi j'ai ressenti la même chose que Lucille Comeau, c'est que ça correspondait peut-être à une époque d'ouverture où on était tellement européo-centré ou occidentalo-centré qu'il était important de faire entendre des textes aussi anciens d'ailleurs que celui-ci, donc écrit au XIIe siècle. Donc c'est quand même quelque chose de très fondamental, mais qui correspond aussi aux écrits de ces périodes de par le monde, qui sont des récits d'édification, de transmission, d'émancipation. Et aujourd'hui, jouer comme c'est joué là, moi, pour le coup, je rejoins un peu Jean-Christophe Briançon. Je pense que par rapport au projet qui semble être celui de Guy-Pierre Coulomb, je trouve que c'est un travail honnête qui correspond à un projet. Moi, la question, c'est est-ce qu'on adhère à ce projet ou pas? Voilà, je l'ai vu sans déplaisir, mais je veux dire sans passion non plus. C'est un spectacle dont je suis sorti et rentré plusieurs fois parce que c'est aussi ce qu'il nous propose peut-être. Et puis c'est bon. Je trouve que c'était pour nous quatre, j'imagine, le premier spectacle en plein air du début de l'été, qu'il y a quand même quelque chose d'assez magique et qu'on a envie de regarder un peu partout. Je ne sais pas quel est le public réagissait doucement, mais pas mal, mais c'était pas non plus des exclamations. Je sais pas comment c'était le soir de la. Je pense que vous l'avez vu pour la oui, première, vous.
La réception était assez bonne, honnêtement. Voilà, le premier soir, la réception
était. Elle était assez bonne quand nous l'avons vu aussi, mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que peut-être que ça s'adresse à un public. Alors, moins, on va dire, lecteur, moins spectateur, est-ce que c'est un spectacle plus jeune public? Et pourquoi pas? Et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais est-ce que c'est pensé comme cela? Moi, je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que. Un metteur en scène, Guy-Pierre Coulomb, en l'occurrence, choisit de monter ce texte aujourd'hui de cette façon-là. Bon, moi, je n'ai pas la réponse. Personnellement, Lucille Comeau.
Moi, je pense qu'il y a une forme de nostalgie.
Ah oui?
Oui, je pense. Ah, ça, je pense, même dans la manière dont sont dirigés les comédiens, la mise en scène, l'utilisation du mime, de la danse, comme vous le disiez, Marie-Jo, la musique qui regarde quand même vraiment beaucoup vers les années 70-80. Moi, je pense qu'il y a une forme de nostalgie.
Bon, allez découvrir par vous-même cette conférence des oiseaux. C'est jusqu'au 30 juin, donc sous les mi-coucouliers, au Printemps des comédiens à Montpellier. Il y aura des dates à la Comédie de l'Est à Colmar du 2 au 19 octobre et puis 11 au 22 janvier 2019 au Théâtre des Quartiers d'Ivry. Mais on a ajouté un supplément, qui n'était pas prévu, à notre page Printemps des comédiens. Est-ce que Marie-Josée Serrache et Jean-Christophe Briançon ont eu la chance, je crois en tout cas, de voir Hate, le nouveau spectacle écrit et interprété par Laetitia Doche en collaboration avec Judith Zaguri et Yuval Rosman, un spectacle qui poursuivra sa route dès la rentrée, notamment au Festival d'automne à Nanterre, à Mandier. Je donnerai quelques dates tout à l'heure. Entendons d'abord un court extrait de ce spectacle.
Le cheval dit « Devant moi, il y a une image de la nature que je ne sens pas. Derrière les pierres, il y a d'autres pierres, et des feuilles, des troncs, et plus loin des aiguilles de pin. Derrière les roues qui font du bruit, il y a les eaux. Je les sens qui ruissellent toutes dans la même direction, pour couler vers celle-là, là-bas, plus grande, plus salée. Derrière la surface de l'eau, il y a des êtres vivants qui glissent. Derrière toi, il n'y a plus personne. Derrière ton sourire, il y a ce que tu veux. Ce que tu veux que tu ne dis pas. Que tu ne veux pas que je sache. Derrière ton visage, il y a un cerveau qui travaille. Derrière ton amour, il y a ta déception future. Derrière ton amour, il y a ce que tu ne sais pas. Derrière ton amour, il y a ta froideur. Derrière ton regard, il n'y a pas moi. Derrière ton admiration, il y a ton vide. Derrière ton admiration, il y en a la fin. Derrière ton admiration, il y a les questions que tu me poseras, les réponses que tu veux que je donne, il y a ton indifférence. Il y a la robe que tu veux que je porte, l'odeur que tu veux que j'aie, les mouvements que tu veux que je fasse, les choses que tu nous imagines vivre. Derrière ton admiration, il y a mon silence futur, derrière les mots. Derrière tes mains tendres, je vois ton assiette, je vois ma cuisse qui coule. Derrière tes carottes, je vois tes cris, tes coups de pied. Ton abandon. Derrière tes caresses, je vois la salle noire où on me cognera la tête. Derrière moi, je vois d'autres chevaux, d'autres femmes, d'autres chevaux.
Voilà pour cet extrait conseillé par Laetitia Deutsch elle-même. Le choix entre une chanson un peu longue, parce que c'est vrai qu'on a rajouté ce spectacle à ce programme, Hate, parce que Jean-Christophe Briançon, et je l'ai vu à la sortie du spectacle, il était totalement liquéfié, décomposé, d'amour et de passion, ému. Donc comme vous parlez d'émotion, c'est vous qui nous racontez ce que c'est que Hate.
Bah là on y est dans l'émotion, et je vois déjà Lucille en septembre sortir de cette pièce scandalisée. Mais
on en reparlera.
En ce qui me concerne, j'en suis sorti assez bouleversé, effectivement. Pour dire les choses concrètement, pour ce qui est de la scénographie et de l'espace qui nous est proposé, c'est un espace en terre battue sur lequel se trouve un cheval avec lequel Laetitia Deutsch va interagir pendant une heure et quart, entièrement nue, en nous disant un texte qui, selon elle, nous parle du chaos de maintenant, comme elle le dit, et qui est dit et mis en espace de cette manière-là pour faire en sorte, comme elle le dit aussi, que ce ne soit pas trop triste. Et c'est bien souvent réussi, bien que ça finisse par être finalement très triste, mais bien souvent réussi aussi par cet espace-là qui nous est proposé par la scénographie, qui est donc très simple, puisque en dehors de cet espace de terre battue, il y a simplement une toile en fond de scène sur une toile peinte qui représente un paysage de montagne qui est donc pensé par Philippe Ken, qui est un scénographe que j'apprécie particulièrement et qui en l'occurrence fait penser beaucoup à son Caspar Friedrich qu'il avait fait il y a quelques temps, qui était aussi une pièce magnifique.
Il y a un rocher quand même aussi.
Il y a un rocher effectivement qui servira à un moment donné.
J'ai vu quelques images, une captation
qui permettra justement de nous extraire. C'est entre autres par ces petits instants là que la pièce s'extrait du malheur qu'elle nous raconte et s'en extrait terriblement bien, parce que c'est aussi très drôle en dehors du chaos du monde que ça nous montre.
Marie-Joëlle Sirache.
Laetitia Deutsch dit d'entrée de jeu qu'elle s'ennuie au théâtre quand elle y va, et elle trépigne au théâtre comme dans la vie. Et elle est impatiente et elle a envie de dire des choses au théâtre. Elle ne sait pas par quel bout les prendre, mais elle a des tas de choses à raconter sur la vie, sur sa génération, sur le monde comme il ne va pas, comment tous ces petits arrangements du quotidien. Elle pratique, je trouve, un théâtre intuitif, physique. C'est une Amazone. Elle est nue. On oublie presque la nudité, mais en même temps, cette nudité induit un rapport avec l'animal extrêmement puissant, érotique, puisqu'il y a une relation d'amour qui se noue entre elle et la bête. Et cette déclaration d'amour à l'animal, alors moi qui ne suis absolument pas sensible aux chevaux, m'a troublée. Elle est extrêmement touchante hein, dans son rapport, comment il se parle, comment elle peut lui hurler dessus pour exprimer sa colère, et puis tout d'un coup le caresser, l'amadouer, l'attirer, se faire sirène, séductrice. Moi je l'ai trouvée formidable, elle ose des choses. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un y aller comme ça, quoi, aussi volontairement, aussi avec une force et une joie contagieuse.
Alors sur Twitter, Lucas CH parle de Hate 2 par pour Laetitia Deutsch et le beau Corazon. Corazon, oui, c'est le cheval. Renversant spectacle sur le désarroi, sur la sincérité, aussi sur l'opportunité de faire sa vie avec un cheval plutôt qu'avec les gens. Ce qui est le nouveau credo de Jean-Christophe Briançon ce soir. Bon, ce spectacle, on avait envie de lui faire une petite place, parce que vous en êtes sorti vraiment très enthousiaste. J'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler à la rentrée. Spectacle écrit en collaboration avec Judith Zaguri et Yuval Rosman, qui se jouera ensuite juste du 31 août au 3 septembre au Théâtre du Loup à Genève, c'est le Festival de la Bâtie. 15-23 septembre aux Amandiers de Nanterre, c'est le Festival d'automne à Paris. 26 et 27 septembre au Festival Actora à Marseille, du 16 au 20 octobre au TNB, à Rennes, 30 novembre 1er décembre au Festival Next à la Rose des Vents, et puis il y aura une tournée en 2019 à Bonlieu, à Annecy, Bonlieu c'est la scène nationale d'Annecy, à la Chaux-de-Fonds, à Angers, à Béziers, à Montbéliard et aussi à Arras. Voilà pour les premières dates d'une longue tournée où nous croiserons Lucille Comeau. On verra si elle est scandalisée ou en larmes.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Le quatrième sujet au sommaire de cette dispute spéciale Montpellier, une incursion, toute petite, mais dans le programme de Montpellier Danse, par le biais d'une installation Trisha Brown, une américaine à Montpellier, conçue cette installation par Agnès Iserine, Liz Hott et Fabrice Ramalingom, un hommage à la grande chorégraphe disparue l'année dernière, qui s'organise autour d'un grand dessin au fusain qu'elle avait réalisé lors des représentations d'It's a Draw au festival Montpellier Danse en 2002. Trisha Brown, une américaine à Montpellier, je n'étais pas sûr de sauter dans le bon silence de Phil Glass. C'est cette exposition, installation dans la salle Béjart de l'Agora de Montpellier, du Centre chorégraphique national de Montpellier, je vais y arriver. Une exposition dont commence à nous parler Lucille Comeau, allez.
Alors, c'est une exposition qui est assez petite parce qu'elle elle ne tient que dans une salle, qui est une grande salle, mais bon, voilà. En l'occurrence, on peut y rester quand même très longtemps parce qu'il y a un matériau, notamment de vidéo, qui est conséquent. Il y a des spectacles entiers de Trisha Brown. Bon, parfois, les qualités des vidéos ne sont pas ce qu'elles pourraient être aujourd'hui.
Ce sont des documents par moment, oui.
Voilà, mais c'est intéressant quand même. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de regarder parfois les corps extrêmement pixelisés sur le type de danse que pratiquait Trisha Brown. Ça donne plutôt des effets intéressants. Vous l'avez dit, autour du coup de ce grand dessin qu'elle a donné à Jean-Paul Montanari et à la Cité de la Danse.
Jean-Paul Montanari, le directeur de Montpellier Danse.
C'est une exposition qui est intéressante si on prend le fascicule d'entrée, donc j'invite les gens qui sont à le prendre, parce que si on ne connaît pas bien Trisha Brown et ce qu'elle fait, ce qui est mon cas, je suis vraiment peu connaisseuse de la danseuse et de la chorégraphe, on comprend pas grand chose. Il faut quand même se plonger un petit peu dans les articles qui sont à l'intérieur pour comprendre de quoi il s'agit. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on prend Trisha Brown par la fréquentation d'un festival et du coup on analyse par là ce qu'a été son travail et aussi ce qu'a été la réception de son travail dans un festival comme le Festival de Montpellier depuis les années 80.
Parce que la première fois qu'elle est venue c'est 82, voilà, et la dernière fois c'est 2013, donc
voilà,
c'est vraiment
exactement. Et d'ailleurs, elle a joué en 82 et en 2013 le même spectacle, ouais. Duel 7 Henry 7. Et la première fois, ça a été vraiment un bide absolu. Non seulement la première fois, ça a été un bide absolu, mais je crois que la deuxième fois aussi, l'année suivante, ça a été aussi assez catastrophique. Et donc, on voit aussi à quel point la volonté de quelqu'un qui tient son festival et qui veut absolument présenter quelque chose à l'encontre même des goûts du public. Bon, ça, c'est ma passion, par contre, parce que j'aime pas trop le public. Du coup, ça paye, quoi. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant, du coup, dans cette exposition, de voir comment un choix peut fonctionner, comment on peut, j'allais dire éduquer, mais en tout cas donner à voir quelque chose au public qu'il n'apprécie pas forcément et puis il change d'avis. Voilà, après moi, la toile autour de laquelle s'organise l'exposition, j'en suis pas absolument passionnée.
Mais elle est liée à une représentation.
Voilà, mais même, oui, alors cette représentation d'ailleurs à laquelle on a accès en entier, pour le coup, sur grand écran, je la trouve pas incroyable. Ça m'émeut pas particulièrement de voir Trisha Brown faire cette performance-là. Du coup, j'aurais préféré presque que certains spectacles qui sont proposés en tout petit écran soient projetés sur grand écran. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Encore une fois, il faut y rester, à mon avis, assez longtemps et avoir la petite Bible dans la main.
Assez précieuse. Jean-Christophe Briançon.
Oui, ça reste quand même une performance intéressante, effectivement, cette toile autour de laquelle s'articule l'exposition, dans la mesure où ça nous permet aussi de... enfin, en ce qui me concerne, de découvrir que Trisha Brown était aussi plasticienne, d'une certaine manière, enfin, dessinatrice en tout cas. Et c'est une performance qui lui a permis, à cet instant-là, de mêler ses talents de chorégraphe, de danseuse et de plasticienne. Donc, c'est un petit peu l'ultra Brown, cette performance. Et c'est donc intéressant. En dehors de ça, cette exposition, effectivement, comme le disait Lucille, a pour intérêt de nous permettre d'entrevoir ce qu'a pu être cette rencontre entre la danseuse et Jean-Paul Montanari. Ce qui effectivement a fondé l'histoire de ce festival et ce qui a fondé aussi l'histoire de la renommée de cette chorégraphe en France, qui jusqu'au milieu des années 90, d'après ce que nous dit cette exposition, était très peu appréciée, ou en tout cas appréciée dans un milieu assez confidentiel. Donc c'est intéressant de voir l'histoire de cette rencontre. Après, pour ce qui est de l'exposition en tant que telle, de la manière dont elle est menée, dont elle a été pensée, je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait en dire, dans la mesure où je pense, c'est ce qu'on se disait en partie avec Marie-Jo quand on est allé la voir, qu'il y a certainement un manque de moyens qui a été peut-être mis à disposition de cette exposition, parce que malgré tout, il y a quand même, comme le disait Lucille, des documents, des archives qui sont tous passionnants, y compris un entretien que vous, Arnaud, avez fait avec Trisha Brown en 2007.
Je ne savais pas avant d'entrer dans cette salle. Hein.
Donc, mais bon, même en dehors de cet entretien, il y a des choses objectivement passionnantes et qui sont utiles pour l'histoire de la danse. Mais il faudrait y passer effectivement des heures pour pouvoir les démêler, parce que tout ça est assez mal enchevêtré, y compris cet espace unique qui est l'espace central de cette pièce, dans lequel est diffusé à trois endroits distincts, trois archives différentes en même temps, ce qui fait que pour les écouter chacune, concrètement, il faut avoir l'oreille collée sur chacun sur chacune des enceintes. Donc bon, ça prend un temps fou, faut être seul, et puis bon, faut connaître, faut prendre le temps de comprendre. C'est pas très bien mené, ce qui n'empêche que c'est très riche.
Marie-Jo Sirache.
Rien de plus à ajouter, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, j'ai été assez émue par It's a Draw, ce dessin donc, qui est effectivement qui trône un petit peu, puis qui est décliné. On voit tout autour des photos qui décortiquent le mouvement de Trisha Brown, et c'est assez émouvant de la voir comme ça danser, un feutre à la main, et puis son corps s'enrouler, se dérouler, et ses gestes qu'elle maîtrise et qu'elle laisse en même temps libre, et donc du coup laisser des esquisses, des empreintes comme ça de mouvements intérieurs qu'elle a complètement intériorisé, qu'elle nous rend à nous visible, comme une offrande. Voilà, j'ai trouvé ça assez beau. Après, je suis d'accord, c'est vrai que l'exposition est un petit peu petite, un petit peu c'est difficile parce qu'il faut y passer du temps pour pouvoir pénétrer dans cette histoire-là qui est une belle aventure avec Montpellier Danse.
Oui, c'est extrêmement documenté de fait. Trisha Brown, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une aura très importante dans le monde de la danse contemporaine, plutôt effectivement partie des milieux à la fois underground et artistique de la scène new-yorkaise. Elle a collaboré notamment avec Robert Rauschenberg, mais elle a aussi, sur le tard pour le coup, fait des mises en scène d'opéra, notamment au Festival d'Aix-en-Provence qui n'est pas bien loin. C'est quelqu'un qui a touché à pas mal de choses, et on en a quand même quelques idées grâce aux différents documents qu'on voit là, Lucille Comeau.
Oui, et parmi ce qu'on entend, il y a des archives, en effet, il y a aussi des récits qui ont été créés pour l'exposition, et pour le coup, c'est vrai que il faut coller l'oreille, mais c'est assez intéressant, notamment un récit à la première personne qui est le récit de Fabrice Ramalingam qui a dansé alors qu'il était jeune, tout jeune danseur pour Dominique Bagoué, dans la compagnie de Dominique Bagoué à l'époque, et qui raconte à quel point danser comme Trisha Brown, ce que ça pouvait faire de changement sur le corps. Et ça, c'est assez passionnant. Il explique qu'ils ont tous perdu des kilos, qu'ils sont hyper affinés, sans faire de régime particulier, mais parce que le mouvement, la danse à la Trisha Brown, ça impliquait de toute façon ce type de corps-là. Et qu'elle disait, on danse avec les os, il ne faut plus être des corps, mais seulement des mouvements. Et tout ça, c'est assez intéressant, c'est bien dit. Enfin, pour le coup, il y a vraiment un investissement de ce qui n'est pas dansé, de ce qui n'est pas vidéo, de ce qui est sonore, qui est assez voilà, moi je trouve que c'est bien de mettre des fictions entre guillemets dans une exposition. Le problème, c'est le dispositif.
Ouais, il faudrait peut-être les rassembler,
les isoler, les
sur le site internet de Montpellier Danse comme une base documentaire. Enfin, il y a pas mal de choses à prendre dans cette exposition installation Trisha Brown à Montpellier. C'est quoi le titre exact? Une américaine à Montpellier, en effet. C'est jusqu'au 7 juillet. Ça se passe à la salle Béjart à l'Agora. C'est ouvert de 12h à 18h et c'est libre d'accès, très gratuite donc, je traduis tout à fait, pour aller commencer à connaître Trisha Brown. Et encore dans l'énergie de son live tweet, Camille André nous rejoint comme chaque soir pour le jeu de la dispute. D'abord un rappel de la question de vendredi soir et sa réponse, Camille.
Alors quel est le titre exact de la nouvelle de Salinger ayant inspiré celui de l'exposition intitulée « Encore un jour banane pour le poisson rêve »
Et le titre est
« Un jour rêvé pour le poisson banane ».
Ah ben voilà. Ce soir, on reste dans le cinéma et à La Rochelle en l'occurrence pour gagner des invitations pour le Festival International du Film qui se déroule du 29 juin au 8 juillet. On en retrouvera d'ailleurs Antoine Guillot en direct pour Plan Large, ce sera samedi après-midi. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, quel cinéaste représenté au Festival de La Rochelle a contribué au succès du groupe de rock finlandais Leningrad Cowboy en les mettant en scène dans deux longs métrages?
Indispensable à voir, ces longs métrages. Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter, vous abonner au podcast de l'émission. Demain, 19h, dispute musique avec Mathilde Serrel, Joseph Ghost et Christophe Comte et sur nos platines Child Queen de Kaja Bonnet, Bashung Live, coffret de 10 CD et puis Both Direction at Once Lost, album de John Coltrane inédit. Et oui.